L'inconscient est-il un destin ? Alors, pour planter un peu le décor, pour essayer d'évoquer le problème que tout cela pose, j'ai envie de revenir sur quelque chose d'extrêmement commun quand on présente le travail de Freud, c'est l'effet qu'il a produit par ses théories sur la pensée occidentale. Pour montrer un peu l'importance du bonhomme, qui connaissait d'ailleurs lui-même son importance, puisque selon lui-même, il représente la troisième gifle narcissique qu'a reçue l'humanité dans son histoire. La première ayant été administrée par, les avis divergent, Copernic ou Galilée, suivant les fans, en déplaçant du coup, évidemment, la Terre, qui n'est plus au centre de l'univers, mais qui ne fait que graviter autour du Soleil, et qui représente évidemment une sorte de chute par rapport à l'humanité tout entière, qui avait l'impression d'être au centre de l'attention divine. Ensuite, la deuxième gifle, Freud l'attribue à Darwin et sa théorie de l'évolution, puisque, si on reprend les choses dans l'ordre, on se dit, d'accord, on n'est pas au centre de l'univers, mais quand même, on est au sommet de la chaîne évolutive. Eh bien non, semble dire Darwin, puisque nous sommes finalement un animal parmi les autres. Alors justement, on peut se dire, d'accord, on est un animal parmi les autres, mais au moins, on est libre et on a la possibilité d'agir en fonction, c'est-à-dire en fonction de nos projets, etc. Eh bien non. Troisième gifle narcissique, nous dira Freud, le sujet de la conscience est lui-même divisé et une grande part de nos actions ne nous appartiennent pas entièrement. Ce qui fera d'ailleurs dire à Freud que l'homme n'est même plus le maître dans sa propre maison. Ce qui veut dire que une partie considérable de ses actions lui sont dictées par un ensemble de pulsions et de désirs dont il n'a pas conscience, mais qui le pousse malgré tout à agir, malgré lui. Alors, j'avais envie de commencer, parce que c'est l'introduction d'introduction, j'avais envie de vous raconter très rapidement un film. Alors, je vais essayer de faire ça très rapidement. Je me disais que ça pouvait être une formule intéressante, parce que ça vous permet un peu de remplacer aussi un film de cinéma que vous auriez pu aller voir ce soir. Donc, vous avez une conférence, un film, en une seule date, c'est formidable. Donc, le film, c'est Le Stratège, je ne sais plus d'ailleurs quel est le réalisateur, j'ai même pas pris le temps de le noter, mais que j'ai vu récemment avec un Brad Pitt extrêmement séduisant, on pourrait même dire au sommet de sa forme, puisque c'est, alors je le qualifie moi-même de middle-age Brad Pitt, c'est-à-dire qu'il n'est ni le petit Brad Pitt un peu minet qu'il avait au tout début de sa carrière, ni le Brad Pitt un peu bouffi qui aujourd'hui joue dans quelques films parfois navrants, dont World War Z. En tout cas, dans Le Stratège, c'est formidable, il ressemble à Robert Redford, et pour le reste, c'est surtout ça qui compte. Il incarne, alors c'est un rôle qui est complètement inspiré d'une histoire vraie, celle de Billy Bean, qui est actuellement toujours d'ailleurs un manager. Donc Billy Bean est un manager de génie. Voilà le rôle de Brad Pitt dans Le Stratège. Il est un manager absolument génial qui va inventer une stratégie hors norme. Une stratégie qui consiste, voyez un peu comme c'est génial et pleinement humain, à réduire la sélection des joueurs de baseball à un ensemble de statistiques. Et tout cela va permettre de compenser des imperfections de sa propre équipe. Alors, pour faire très court, mais on va vite voir les enjeux, son équipe a perdu un certain nombre de matchs, donc il n'a plus d'argent pour acheter des bons joueurs. Donc on lui suggère de prendre des joueurs un peu moins bons. Stratégie qu'on aurait tous, parce qu'on n'est pas géniaux comme Billy Bean. Lui dit non. Ce qu'on va faire, c'est inviter un statisticien, et on va essayer de compenser les défauts et les qualités des uns et des autres de façon à avoir une équipe homogène à partir de bras cassés, en quelque sorte. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Donc tout le monde, c'est que des joueurs qui sont absolument voulus par personne, des sortes de losers dans la profession, mais qui, en se compensant leurs imperfections, et parce qu'ils ont quand même aussi des qualités, vont permettre à l'équipe d'être extrêmement solide. Alors voilà en gros son idée extraordinaire. Ça s'est vraiment arrivé, hein. C'est vraiment ce qu'il a fait à partir d'une théorie. Voilà. Et alors évidemment au début, on ne va pas du tout le prendre au sérieux. Ça va être une catastrophe, tout le monde va dire « mais enfin, le baseball ne se règle pas à coups de statistiques, et c'est bien heureux, etc. » Et puis on va d'un coup finir par le prendre beaucoup plus au sérieux, parce que il va faire gagner à son équipe de bras cassés 20 matchs successifs. Ce qui est très exactement le record absolu, enfin le record en tout cas mondial, pour une équipe de baseball. La précédente n'ayant réussi à avoir cette succession de matchs glorieux qu'une seule fois dans les années 50. Bon. Sauf que Billy est traumatisé. Alors ça, on l'apprend par des petits flashbacks. On voit que Billy a un traumatisme. À 20 ans, à peu près, on lui a proposé à lui-même d'être joueur de baseball ou de rentrer à Stanford parce qu'il avait réussi le concours d'entrée. Donc, université extrêmement prestigieuse, etc. Il va accepter de devenir joueur de baseball, moyennant un très gros chèque. Donc, il laisse tomber Stanford, il commence sa carrière, mais il ne réussit jamais à percer. Et donc, il reste toujours un joueur moyen. Terriblement moyen, ce qui fait que lui-même se considère comme un loser. Voilà en gros ce qu'on apprend à ce moment du film. Donc, on comprend que son but dernier, son but ultime, est de conduire cette équipe de losers au sommet. Alors, c'est ce qui se passe. 20 matchs. 20 matchs, c'est extraordinaire. Alors, c'est un peu long quand vous regardez le film, parce que 20 matchs, c'est un peu long. Mais le dernier match est décisif. Il le sait très bien, Billy Beane, parce que s'il gagne, alors là, c'est la consécration absolue. Tout le monde considérera que c'est un génie. S'il le perd, en fait, son exploit va passer complètement à la trappe, parce que ce qui compte pour les Américains, ils sont un peu comme ça, c'est gagnant ou perdant. Vous perdez le dernier match, vous perdez la saison, perdant. Alors, bon, les avis sont partagés, certains disent « mais non, c'est génial ce que tu as fait ». Et en fait, ce qui se passe, c'est que arrive le dernier match de la saison, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, alors, flashback de nouveau dans le film, envahi par son traumatisme, il les coach n'importe comment. Il leur dit n'importe quoi, il les place dans d'autres... Parce que c'est vraiment un truc hyper précis, hein. Sachant qu'ils doivent se compenser les imperfections, vous ne les mettez pas au bon moment, au bon endroit, ça s'écroule. C'est exactement ce qui se passe. Ils perdent mais complètement le dernier match. Et Billy Beane est extrêmement malheureux parce qu'effectivement, sa prédiction se réalise et tout le monde se retourne contre lui. Et dit en fait, c'est bien la preuve que les matchs de baseball ne seraient que pas à coup de statistiques. Donc c'est terrible. Sauf que, c'est pas fini, l'entraîneur des Red Sox, vous voyez comme je n'y connais rien en baseball, vient le voir en disant « mais moi je sais que tu es génial, je sais que tu es absolument un génie et on va appliquer ta méthode, tu vas venir avec nous chez les Red Sox qui est une équipe bien meilleure que la sienne, qui est les AAAs, rien à voir avec les Alcooliques Anonymes, je l'ai compris qu'après, je ne comprenais pas le rapport. Et les Red Sox, moyennant là aussi, parce que ça se passe toujours sur un très gros chèque, on va payer Billy Beane plus qu'aucun manager n'a jamais été payé. Plus que, vous pouvez imaginer, je ne sais plus d'ailleurs, je crois que c'est un truc comme 16 millions de dollars, enfin, un truc complètement fou. Peut-être que c'est 6, mais ça suffirait. Bon. Alors évidemment, il n'y a aucune raison de refuser. Et là, il a sa consécration, il a tout ce qu'il faut, il a la meilleure équipe, il a un très gros chèque, et à considération des Red Sox. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va dire non. Alors, ça paraît complètement incompréhensible, évidemment. Vous êtes comme moi. Vous dites, c'est quoi ce film ? C'est n'importe quoi. Sauf que c'est vraiment arrivé. Bon, il dit non. Pourquoi ? Parce que pour lui, ça symbolise quoi ? Eh bien, ce qu'il veut, c'est pas ça. C'est entraîner cette équipe de losers pour les amener au sommet. Enfin, c'est pas vraiment des losers, du coup, on l'a bien vu. Mais c'est ça qu'il veut. Deuxièmement, pour lui, qu'est-ce qui se passe ? On lui propose encore une décision motivée par l'argent. Et la dernière fois, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il a fait ça, ben, ça lui a gâché sa vie. Donc il dit non, 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 je ne céderai pas à l'appel du gain et je vais emmener cette équipe au sommet. Donc on se dit c'est génial, le film va continuer. Eh ben non, le film s'arrête là. Enfin en gros on le voit se tordre de douleur parce qu'il est très très tourmenté. Et un bandeau dit Billy Beane est toujours actuellement dans cette équipe en train d'essayer de les ramener au sommet. Tandis que les Red Sox, utilisant exactement ces techniques, ont réussi à tout remporter. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Oui, je m'arrête, hein. Je vous ai gâché un film. Mais... qu'est-ce qu'on a ? On a un Billy Beane qui rejoue continuellement le même traumatisme, qui se brûle sa vie, et qui inconsciemment ne semble pas supporter la réussite, et l'idée qu'en prenant une autre décision, sa vie aurait pu être meilleure. C'est-à-dire qu'il est incapable d'accepter les signes du succès et qu'il se punit. D'ailleurs, à un moment, c'est très flagrant, c'est un film américain, donc c'est flagrant, son copain de Yale lui dit « mais enfin, là, tu l'as, ta consécration ». On est prêt. C'est pas le chèque en lui-même, c'est ce que ça représente. Ça représente quelqu'un qui a une confiance absolue en toi. Mais il refuse de le voir. Enfin, il est incapable de le voir. D'ailleurs, il se tord de douleur sur le stade, on le voit se traîner, parce qu'il ne peut pas accepter. Bien. Donc il y a bien quelque chose qui l'empêche, malgré lui, absolument de surmonter ce traumatisme. D'où la question, l'inconscient est-il un destin ? Alors, on va replonger un peu plus directement dans la philosophie, en problématisant tout cela. Eh bien, admettre que l'inconscience est un destin, c'est reconnaître que le sujet n'est pas toujours, et le plus souvent pas, maître de ses actions, mais c'est aussi contribuer à le déresponsabiliser. Alors, on déresponsabilise, on attribue des actions qui ne sont pas véritablement des actions, puisqu'elles ne sont pas voulues, enfin en tout cas des actions conscientes, et du même coup, évidemment, ça va poser problème. Alors, un certain nombre de philosophes vont refuser du coup l'inconscient en disant que plus je justifie les actions d'un homme par l'inconscient, plus je soustrais sa puissance de choisir, et du coup ce qui fait son humanité. En gros, c'est ce qu'on verra. Si un homme se définit par sa possibilité de choisir, de se choisir un destin, parce qu'il n'est pas un animal, et bien plus vous admettez qu'une partie de ses actions lui échappe complètement, plus vous en faites une marionnette. Donc en gros, tout ce que vous ôtez à la responsabilité humaine et à la liberté, eh bien, va consister à déshumaniser la personne en question. Voilà en tout cas l'avis qu'un certain nombre de philosophes, on en verra surtout deux, Alain et Sartre, qui sont très emblématiques sur cette question. Quoique Alain dise des choses qui ne sont pas forcément bouleversantes, mais Sartre a quand même une très bonne analyse, même si d'un point de vue psychanalytique, elle peut être largement attaquée. Et puis enfin, puisque vous voyez se dessiner un plan, il va falloir quand même qu'on se pose la question de savoir si, malgré tout, on peut faire l'économie de l'hypothèse de l'inconscient. Comment interpréter autrement les névroses, les pulsions, etc. Donc une troisième voie consisterait à montrer que l'inconscient, s'il est difficile à refuser, ne signifie pas pour autant un déterminisme. Donc en gros, trois moments, parce que ce n'était pas très clair. D'abord, on va réfléchir sur l'origine du concept d'inconscient et sur son développement chez Freud. C'est difficile de faire l'impasse de Freud dans ces circonstances pour comprendre pourquoi, selon les mots de Freud lui-même, la pulsion est un destin. C'est quand même ce que dit Freud. On peut le prendre au sérieux. Puis, nous examinerons les difficultés morales et théoriques que pose une telle définition de l'inconscient. Et on va se demander s'il est possible de remplacer cette hypothèse qui pourrait paraître moralement douteuse par une autre, qui serait moins douteuse. Et enfin, on essaiera de voir si ce concept d'inconscient ne renverrait pas finalement à toute autre chose qu'une destinée. Et je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas une grande surprise comme cela, nous allons essayer de montrer que l'inconscient, loin d'être la négation de la liberté, est plutôt le signe d'un être libre. Donc il va falloir essayer de réexaminer le concept pour le voir sous un jour différent. Alors, encore une considération avant de se lancer. On va considérer l'idée de destin dans ses deux sens. L'idée de destin en finalement un sens faible et un sens fort. Le sens faible, c'est l'idée du déterminisme, c'est-à-dire que tout ce que l'homme fait ou croit faire librement trouve en fait son origine dans quelque chose d'antérieur qu'il ne connaît pas forcément. Donc ça, c'est le sens faible. C'est rien de ce que je fais n'est dû au hasard. Et donc, si on remet bout à bout la chaîne de cause et de conséquence, on peut redécrire la totalité de mes actions. Le sens fort, c'est bien sûr l'idée d'une prédestination. C'est-à-dire que tout ce que fait le sujet serait fixé par avance. Et là, dans le cadre freudien, on pourrait se dire que une grande partie de ce qu'il a vécu dans sa petite enfance, par exemple, donnerait du sens à son avenir et ne ferait qu'anticiper un déroulement qui va suivre la façon dont il s'est lui-même constitué psychiquement. Donc, à travers cette idée de destin, on va essayer d'analyser les concepts, notamment freudiens, mais pas seulement, d'inconscient. Et donc, on commence. J'ai appelé très modestement ma première partie « Freudisme et destiné ». Je trouvais que ça sonnait bien. Alors, pour comprendre un petit peu tout cela, il va falloir repartir d'un anti-modèle, d'un contre-modèle, qui est généralement attribué à Descartes. On voit dans Descartes le philosophe, par excellence, du sujet conscient, transparent à lui-même. C'est-à-dire pour qui la conscience, finalement, n'a pas d'obscurité. D'ailleurs, Descartes nous dit « La seule chose dont je sois sûr, absolument sûr, c'est ma conscience présente. » C'est-à-dire que c'est le cogito, le fameux « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire que je peux tout nier, le corps, Je peux nier le monde extérieur, je peux nier mes connaissances passées. Le fait est que je pense actuellement, et qu'en tant que je pense, je suis. Donc là où je ne pense pas, je ne suis pas, donc je n'existe pas réellement. Bien. Et donc là où je ne pense plus, c'est quoi ? C'est le corps qui s'exprime. Donc dans un sens, si vous voulez trouver un inconscient chez Descartes, vous ne le trouverez pas dans la pensée. Vous le trouverez directement dans le corps, et seulement dans le corps. Mais le corps, ce n'est pas le sujet. Voilà en gros ce que dit Descartes. Descartes donc assimile la conscience et la pensée. Et c'est là-dessus que va commencer à apparaître le concept d'inconscient. Alors généralement, on le fait remonter à Leibniz, qui va aborder le problème par sa théorie des petites perceptions. Alors je fais un petit détour historique, parce que ça peut être très intéressant de voir comment ça s'est goupillé, cette affaire. Que va dire Leibniz ? Plusieurs choses, mais un exemple très simple, et j'en prendrai un autre. Leibniz va dénoncer cette transparence du sujet chez Descartes et dire non, beaucoup de mes pensées me sont obscures. Beaucoup de mes pensées me sont obscures et il donne une preuve, un exemple. Vous séjournez à côté d'une rivière ou d'une chute d'eau, ça fait encore plus de bruit, et bien au bout d'un moment vous ne l'entendez plus. Alors si on vous la fait remarquer, vous savez, elle rentre dans votre champ de conscience. Et pourtant, à force, d'habitude, eh bien, c'est une conscience obscure, une conscience seconde. Et c'est en vous, et pourtant, vous ne vous en rendez pas compte sur le moment. Et cela peut même influencer mon comportement. Alors ça, cet exemple n'est plus de Leibniz, mais vous donnez cours dans une salle, et vous allez voir qu'il y a du vécu, dans une salle de classe, où juste à côté, il y a des travaux, eh bien, au bout d'un moment, vous faites abstraction des travaux. Sauf qu'à la fin de la journée, vous êtes complètement épuisé. Vous n'en pouvez plus. Vous avez crié au rythme du marteau-piqueur, c'est-à-dire que quand il y a le marteau-piqueur, vous élevez la voix, vous ne faites même pas attention, puis quand il n'y a plus de marteau-piqueur, ça va un peu mieux, puis à la fin, vous n'avez plus de voix, vous êtes épuisé. Donc il y a bien le bruit qui était là, en filigrane, un énervement constant. Et pourtant, sur le moment, vous ne vous en rendez plus compte. Bref, pour Leibniz, il y a une sorte de va-et-vient. La conscience fait comme des vagues, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a une conscience parfaitement claire et des moments où des choses un peu obscures rentrent dans la conscience et sont pourtant là, mais elles n'apparaissent pas clairement. Alors un dernier exemple qui permet de le comprendre vraiment plus facilement, c'est le tic de langage. J'avais un prof à la fac, très compétent, très intéressant, mais chaque fois que j'assistais à un de ses cours, j'étais extrêmement gêné, je ne comprenais pas pourquoi. Et puis à un moment, j'ai compris, c'est qu'il disait « entre chaque mot ». Et alors, nous allons voir comment la théorie de Hobbes va trouver son écho. Bon, bref, vous avez compris. Alors, au début, on ne s'en rend pas compte, tout va très bien. Et puis, au bout d'un moment, si vous le saisissez, ce truc, vous n'entendez plus que ça. Donc, c'est ce que j'ai commencé à dire à mon voisin. T'as vu, il est bien, mais il n'arrête pas de dire « Et quand tu lui dis ça, impossible d'entendre de cours. Bon. Donc, on l'entendait avant, mais le fait d'un seul coup de le révéler va tout... Oula. Tout fiche en l'air. Pouf, le détail qui était là en filigrane apparaît au premier plan. Et tout se casse la figure. Donc il y a bien, nous dit Leibniz, bon, j'arrête avec tout ça, des pensées plus ou moins obscures qui sont bien là sans être là, de la pensée en nous sans nous. Bon. Mais tout cela n'est pas encore très freudien, et même pas du tout, du tout, du tout, parce que dans cette conception, il n'est pas du tout question de destin. Il est question juste de moments précis, clairs et de moments obscurs. Alors, la deuxième forme, qui cette fois-ci sera beaucoup plus proche, sera adoptée par Schopenhauer, qui va lui dire, mais cette théorie est terrifiante, qu'il y a des forces en nous qui s'agitent, malgré nous, et qui nous poussent à l'action. Alors là, on est plus proche de Freud, parce que ça nous pousse à l'action. Cette pulsion, c'est bien de ça. Ça pousse. Quelque chose qui va faire bouger. Bon. Alors, Schopenhauer compare la conscience du sujet à un lac suisse. En surface, tout est calme. Alors, je n'ai pas vérifié auprès des lacs suisses. Peut-être que je dis des bêtises. En surface, tout est calme. Mais quand vous allez au milieu, il y a des espèces de remous. Vous pouvez être aspiré. Bon, on pourrait imaginer le lac Léman, je ne sais pas. À peu près le seul lac qui est en commun avec la Suisse. C'est vrai que quand vous allez au milieu, il faut être déjà un bon nageur. Ceux qui ont essayé de traverser tout le lac Léman sont bons. Bon, peu importe si c'est vrai ou pas, l'idée c'est que pour Schopenhauer, en apparence tout est calme, en dessous ça boue. Voilà en gros ce qu'il va nous dire. Alors en gros, qu'est-ce qui va s'agiter en nous ? Eh bien les forces de la nature. Vous croyez, nous dit Schopenhauer, choisir librement votre conjoint ? Vous croyez aimer telle personne ? Et en fait, pas du tout, c'est la nature qui vous pousse à quoi ? Vous reproduire et à vous conserver. Voilà les deux seuls moteurs de la nature. Alors c'est terrible, parce qu'en plus cette nature est aveugle, nous dit Schopenhauer. Alors c'est pas de bol, c'est-à-dire que c'est une sorte de force aveugle, qui n'a pas conscience d'elle-même, mais qui pousse simplement à sa conservation à elle, et donc à la reproduction de ses espèces. Donc comme les animaux, comme n'importe quel animal, vous cherchez à conserver votre espèce, mais sans le savoir. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, c'est une inversion de priorité. Vous pensez que l'essentiel de vos choix est conscient, nous dit Schopenhauer, alors qu'en fait l'essentiel c'est ce désir qui vous motive, exactement comme n'importe quel animal, et à qui vous donnez des justifications posthumes. En gros, ce désir parle à travers vous comme à travers n'importe quel chien ou chat, ou prenez d'autres animaux, parce que là du coup, mais vous croyez l'avoir choisi librement. Alors c'est terrifiant, mais le problème c'est que une branche de la science la plus réductionniste, c'est-à-dire la plus violente, va plus ou moins donner raison. Alors quand on va jusqu'au bout, on se rend compte à quel point Schopenhauer a anticipé certains développements scientifiques terrifiants et était finalement un petit joueur. Alors j'avais lu une expérience que j'ai pas réussi à retrouver complètement. Alors après, vous n'êtes pas obligé de me croire complètement non plus, mais a priori, dans une émission très sérieuse, on nous avait fait part d'une expérience qui visait à montrer des portraits de femmes à des hommes. Des femmes toutes superbes, voilà, ou toutes moyennes, je ne sais plus, mais enfin toutes à peu près équivalentes, à des hommes, et qui devaient montrer lesquelles ils trouvaient les plus séduisantes. Eh bien, à 90%, même 94%, c'est toujours les mêmes femmes qui ont été choisies, et ces femmes-là avaient été photographiées au moment où elles étaient fertiles. Non. Alors, vous allez me dire, mais oui, ça c'est n'importe quoi, machin. Il se trouve que moi, alors là encore, c'est encore plus sur parole, vous pouvez me croire, mais ça m'est arrivé souvent, c'est-à-dire que souvent je dis à ma femme, qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui, en ce moment je te trouve très belle, et à chaque fois elle me dit, ah, tiens, c'est rigolo, c'est justement un moment où on peut faire un enfant, parce que ma femme veut toujours un enfant de plus, et moi, trois, ça me va. Donc, il y a un piège de la nature, c'est-à-dire que je me fais à chaque fois avoir et je dis « Oh, comme tu es belle !»« Ah, bah tiens, ça tombe bien que tu en parles bon. !» Voilà, bon, donc, « Don't do it at home. » Donc ça, c'était un premier point. Voyez comme il y aurait une force en nous sans nous. Oui, c'est terrifiant parce qu'en plus, je vois des amis qui ont un regard terrifié parce qu'ils savent que ma femme peut très bien entendre cette conférence, évidemment. Oh, mais elle le sait. Et autre chose, une branche de la science s'appelle la biochimie des émotions, ça c'est encore pire, ça veut dire qu'en gros, mais là c'est l'idée que la plupart des sentiments ne sont pas vraiment des sentiments, nous disent certains scientifiques, pas tous, mais viendraient simplement de réactions biochimiques et de compatibilité phéromonique. Pardon. C'est-à-dire que les phéromones, quand c'est compatible, vous savez, ces espèces d'odeurs qu'on sécrète mais qui ne sont pas perçues à un niveau conscient, bah, quand c'est compatible, bah, vous trouvez la personne compatible vachement intéressante. Bref. Horrible, abominable, ça veut dire que nos émotions, ça veut dire que notre conscience serait simplement un épiphénomène, un phénomène second, et que la plupart des forces seraient des choses qui ne viendraient pas de nous. Bon. Alors tout cela est quand même un peu grossier. Leibniz, c'est une vision très lointaine de l'inconscient. Schopenhauer, c'est une vision très... très 19e, très romantique. Alors je sais, on dit romantique pour Schopenhauer, ça vous semble pas très romantique, mais au sens de la nature qui se déchaîne, etc. Évidemment, c'est avec Freud que l'essentiel va se jouer et que ça va devenir beaucoup plus intéressant. Mais ça me semblait intéressant de faire un petit parcours pour vous montrer comment on est passé déjà d'un inconscient statique à un inconscient dynamique. Statique, c'est celui de Leibniz. Il suffit d'écrire le champ perceptif et de voir que certaines consciences sont moins claires que d'autres. Bon. L'inconscient dynamique, c'est beaucoup plus sournois. C'est que des forces s'agitent en nous, dont on n'a pas conscience, et qui nous poussent à l'action. Malgré notre volonté. Enfin, ça ne veut rien dire, malgré notre volonté. Malgré ce que l'on pense en savoir. Bien. Donc, voilà en gros dans quel cadre s'inscrit cette fameuse découverte de l'inconscient par Freud. Alors, on va décrire un petit peu tout cela maintenant, c'est-à-dire la conception de Freud lui-même, pour voir si justement on peut parler ou non de destin. Et pour l'instant, on va soutenir que oui, il y a quand même de quoi en parler. Alors, pour comprendre les enjeux de la psychanalyse, il faut déjà essayer de s'entendre sur ce qu'on entend par psychisme. Bon, on va l'entendre d'une façon un peu philosophique pour l'instant, plus que psychanalytique. Alors, j'ignore si vous faites partie de la société lyonnaise de psychanalyse ou autre. Je vais essayer de m'adresser à tout le monde et de me justifier par cette couverture prodigieuse qui consiste à dire « je suis professeur de philosophie et non pas psychanalyste moi-même ». Comme ça, si vous avez des griefs, y a une deuxième partie qui vous permettra de les faire rejaillir, évidemment. Et je vous attends. Parce que j'attends d'être corrigé si jamais je dis des choses approximatives. Mais bon, dans l'ensemble, le psychisme, c'est en fait l'ensemble des sensations, des émotions, des désirs, des aversions, bref, de tout ce qui est vie affective. Mais c'est aussi la mémoire, l'imagination, la raison, la volonté d'un individu. Donc tout ce qui... Le tout. C'est à la fois tout ce qui pourrait être conscient et inconscient. Et du coup, c'est déjà une conception qui s'oppose à ce qu'on disait sur Descartes. Donc pour Descartes, encore une fois, le sujet était une évidence. Toutes les émotions, tous les sentiments, tout cela était relié par la conscience que j'ai de les ressentir. Donc la conscience, c'est ce qui venait unifier tous les éléments du psychisme. Et donc patatras, avec Freud, pas du tout. Il y a une dualité au sein du sujet et une part essentielle de mon psychisme m'est inaccessible, en tout cas directement. Ça veut dire, très clairement, que j'éprouve des émotions, des sentiments, des désirs, sans que je le sache, sans que j'en ai conscience. Et donc, sur lesquels ma volonté n'a pas de contrôle direct. Alors, c'est quand même un peu un problème. Comment est-ce qu'il est possible que j'éprouve quelque chose d'aussi intime que des sentiments ou des pensées sans le savoir ? Alors, tout cela vient... j'aime bien aussi partir de l'origine de la découverte. Alors, on connaît les expériences faites sur les hystériques, mais moi, ce n'est pas celle-ci qui m'intéresse. C'est plutôt ce que j'appelle moi-même le coup du parapluie, à défaut d'autre chose, une expérience très connue, où Freud assiste, je crois que c'était Charcot, à une expérience d'hypnose, il me semble, et c'était, il me semble, un jeune homme, parce que je l'ai raconté aussi sous la forme d'une jeune femme, vous voyez, ma misogynie, ou je ne sais pas, ou au contraire, mon amour pour les femmes, qui rejaillit. Mais je crois que c'était un jeune homme. En tout cas, Charcot l'hypnotise et lui dit, quand on vous réveillera, vous ne vous souviendrez de rien, à 10h, vous allez prendre votre parapluie, vous allez l'ouvrir. Bon, arrive, bon, le jeune homme se réveille, blablabla, il discute, tout va bien. Et puis à 10h, un moment, il s'excuse, il prend son parapluie, il l'essaye, paf, il l'ouvre. Alors Charcot dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi diable ouvrez-vous votre parapluie au milieu de l'après-midi, au milieu de la pièce, par un jour de beau temps ? Et là, le jeune homme répond immédiatement, eh bien, j'ai juste voulu l'essayer parce que j'ai peur qu'il pleuve. Génial. Pourquoi c'est génial ? Parce que on a là une reconstruction immédiate de la part du sujet. Le sujet, ça, ce qui l'a poussé à agir, c'est quoi ? C'est une suggestion hypnotique dont il ne se souvient plus à son réveil. Mais lui-même croit qu'il a agi volontairement. Il croit qu'il est allé lui-même ouvrir son parapluie au milieu de la pièce, il avait l'air complètement stone, pour essayer de voir si ça marchait. Donc il s'attribue à lui-même l'origine de son action, sans savoir même que l'origine de son action est imputable à quelque chose d'autre, à un niveau infraconscient. Et donc Freud dit « génial ». Alors, il dit « génial », mais on va laisser tomber l'hypnose, c'est trop dangereux. Mais il dit quand même « génial » parce que ça montre quoi ? Que le sujet, d'un seul coup, peut avoir immédiatement l'impression que ça vient de lui, alors que ça ne vient pas de lui. Ça, c'est une preuve immédiate. Il croit agir librement, alors qu'il ne connaît pas la véritable... ce qui va véritablement le pousser à agir. Et évidemment, là, la porte est grande ouverte à la théorie de l'inconscient. Si on est capable de reconstruire immédiatement une raison, c'est qu'on est aussi capable de se masquer une partie de sa vie psychique. Donc, c'est ce que va essayer de faire le psychanalyste, enfin en tout cas Freud, une théorie qui permettrait de rendre compte de phénomènes qui, sans cette théorie, pourraient être jugés absurdes ou incompréhensibles. Alors, avant Freud, un certain nombre de ces phénomènes n'intéressaient personne, parce qu'ils étaient jugés insignifiants. Par exemple, les actes manqués ou les rêves, on les voyait plutôt comme des résidus involontaires de l'activité humaine. En gros, pour faire court, et d'ailleurs pour Descartes, lui-même disait que les rêves, c'était, je cite, « une sorte de folie qui touche les hommes la nuit ». C'est pas une analyse d'une profondeur vertigineuse. En gros, la nuit, quand vous rêvez, vous êtes un peu fou. C'est parce que votre pensée consciente était un peu amoindrie, et puis vous dites n'importe quoi, vous rêvez à n'importe quoi. Voilà, vous parlez avec votre femme, puis d'un coup, pouf, elle se transforme en hippopotame. Bon, j'arrête avec ma femme. Je ne sais pas pourquoi elle revient dans tous mes exemples. Ça, ça pourrait être intéressant de travailler là-dessus. Mais bref, puis pourquoi un hippopotame, tiens ? Alors qu'elle ressemble à tout sauf un hippopotame. Enfin, à tout. Elle est magnifique, ma femme. Bien. Alors, en tout cas, Freud était non pas seulement un théoricien de la vie psychique, il était d'abord un médecin. Et du coup, il ne pouvait pas se contenter de dire que la plupart des désordres, des maladies de ses patients venaient uniquement du corps. Il y avait quelque chose qui n'était pas uniquement physiologique, et il va donc essayer de trouver le sens des symptômes des malades qu'il va rencontrer. En postulant que l'inconscient n'est pas seulement corporel, même si ça se rattache évidemment au corps, mais qu'il y a une dimension psychique, évidemment. Et il va dire aussi, et surtout, que l'inconscient n'est pas une petite partie du psychisme, mais qu'il en est même la partie essentielle. Donc l'essentiel, bon, on peut se figurer souvent, ça c'est la métaphore pour les terminales, ah oui, c'est pas un tableau. Heureusement que j'ai pas écrit avec un Velleda. Un iceberg, évidemment, dont seule la pointe serait la conscience, tout le reste étant l'inconscient. Bon, ça, c'est vraiment la vision globale et un peu grossière. Mais donc, c'est l'hypothèse que la plupart des manifestations involontaires de l'homme seraient le résultat d'un conflit inconscient entre des forces contradictoires. Bien. Alors, on va essayer de voir très rapidement les deux topics pour voir à quel point tout cela rejoint quand même notre idée de destin du même coup. La première, c'est va nous servir à illustrer, la première topic, l'idée du déterminisme. C'est-à-dire, entendu en un sens aussi un peu faible, le sujet découvre qu'il est parfois la proie de son psychisme, c'est-à-dire qu'il y a une absence de contrôle du sujet par lui-même. Alors, la première topique, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'une topique déjà ? Ce n'est pas forcément évident. C'est une représentation abstraite de l'inconscient. Et la première, on la trouve notamment et particulièrement, et peut-être même d'abord, en 1900, dans l'interprétation des rêves. Bien. Que nous dit à ce moment-là Freud ? Eh bien que, alors, c'est comme si on se figurait une cible. Hein. Je trouve que c'est plus facile. Au milieu de la cible, il y a trois... grand cercle, au milieu vous placez l'inconscient, à ce moment-là, tout autour vous pouvez mettre une petite censure. Et tout le reste, c'est ce qu'on appellera le psychisme, le moi, qui est composé de préconscient et de conscient. Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'il y a, nous dit Freud, deux sortes d'oubli. Le préconscient, ça va être le lieu où sont stockés, en quelque sorte, même si c'est pas un lieu, enfin, on va dire que c'est l'instance, où sont les souvenirs qui peuvent être mobilisés. Parce que dans l'instant, je ne mobilise pas tous mes souvenirs à la fois. Je ne pense pas à toute ma vie psychique consciente. J'ai besoin d'en utiliser une partie pour telle ou telle chose. Bon. Donc, en gros, le conscient, c'est ce que je pense actuellement. Je crois. Le préconscient, c'est tout ce que je suis susceptible de ramener à ma conscience, donc tous les souvenirs qui ne sont pas enfouis. Mais la véritable rupture, c'est l'autre forme d'oubli, c'est-à-dire qu'il y a des souvenirs qui sont refoulés dans l'inconscient. Et cette fois-ci, je n'y ai pas du tout accès. Enfin, pas accès directement, en tout cas. C'est-à-dire que j'ai beau faire l'effort de me souvenir, impossible. Je ne saurais même pas quoi chercher. Bien, donc il y a une partie donc, des informations, des réalités qui sont entravées, qui sont refoulées. Alors Freud explique encore plus simplement, mais là c'est quand il nous prend un peu pour des débiles, je crois, c'est la métaphore de l'appartement. Mais moi, ça m'a permis de comprendre. Voilà. Je vous laisse trouver les liens. Alors donc, c'est un peu comme si on se figurait l'inconscient comme une antichambre où les invités, qui sont finalement toutes les tendances psychiques, sont mis comme ça, c'est l'antichambre, et en fait, évidemment, ce sera l'inconscient. Ces invités peuvent passer dans le salon, mais tous ne passeront pas, parce qu'il y a un gardien qui est là pour sélectionner les invités. Le gardien dit en gros pas de basket. Pas de basket, ça veut dire que vous êtes refoulé, et pas vous restez dans l'inconscient, c'est-à-dire vous restez dans l'antichambre. Certains, en revanche, vont pouvoir rentrer, mais quand vous rentrez, c'est pas encore que vous avez le regard clair de la conscience. Il faut encore attirer l'attention du maître de maison, qui peut discuter avec d'autres invités. Vous comprenez ou pas la métaphore? Ça veut dire qu'en gros, la conscience, c'est le maître de maison, qui peut s'intéresser à vous ou pas. Mais si déjà vous êtes dans le salon, eh ben il pourra s'intéresser à vous. Si vous restez en antichambre, il ne vous connaîtra même pas. Donc antichambre, inconscient. Salon, conscience. Maître de maison, pardon, préconscient. Maître de maison, conscience. Bon, je ne sais pas si c'est plus clair, mais en tout cas, c'est dit. Alors, tout cela va nous permettre de comprendre plein de choses. À peu près tout le fonctionnement psychique. En tout cas, trois grandes choses. Je vois que le temps s'écoule, il faut que je me dépêche. La première chose, c'est comment expliquer les actes manqués. Alors ça, c'est rigolo, c'est les fameux lapsus, les oublis et les pertes qui peuvent avoir une dimension symbolique. Je vous donne juste un exemple de lapsus, ça c'est toujours marrant, surtout que ça implique toujours d'autres personnes que moi. Généralement, je raconte les lapsus des autres. Alors le lapsus, c'est bien sûr dire un mot à la place d'un autre, alors que ce qu'on voulait dire était clair. Bon. Généralement, le mot n'a aucun sens dans la phrase, mais est quand même hautement symbolique. Je donne un exemple, une prof de français que je connais, tout cela est très vrai, et complètement raconté même par la personne en question, est arrivée une fois après un très bon week-end où elle avait rencontré quelqu'un. Elle arrive devant des cinquièmes, et elle n'est pas du tout envie d'ailleurs de faire cours, pas une seconde, elle a envie de retrouver son copain. Elle arrive devant eux, et elle essaie de se motiver, mais elle essaie aussi de se justifier, puisqu'elle a des cernes pas possibles sous les yeux, et elle croit dire, en s'installant devant les cinquièmes, ah, « Écoutez, je suis désolé, je suis complètement crevé, j'ai bossé tout le week-end. » Alors vous voyez déjà le lapsus arriver, mais aussi terrifiant soit-il, je vais quand même le dire, pour vous mettre bien mal à l'aise, elle a bien dit devant des cinquièmes, « Écoutez, je suis complètement crevé, je suis désolé, j'ai baisé tout le week-end. » Et en voyant, elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle a dit, mais en voyant le regard médusé de ses élèves qui n'ont même pas osé rigoler, elle s'est dit « Tiens, j'ai dit une connerie. » Et là, hop, elle s'est rendue compte de la bêtise. Faute. Bien. Bon, dans ces cas-là, en général, deux tendances psychiques contradictoires qui viennent. Je veux essayer de m'excuser et de me remettre au boulot, mais en fait, au fond, qu'est-ce que je trahis? Mon désir profond de retrouver tout autre chose que mes élèves. Bien. Alors, les oublis, les pertes, on ne va pas y passer trois heures. Hein. Moi, ça aussi, c'est très... Alors moi, quand ça m'implique, mais que ce n'est pas très gênant, je le raconte, j'ai oublié trois fois mon rendez-vous chez le dentiste. C'est vrai, hein. J'ai changé de dentiste, du coup, à la fin. C'est-à-dire qu'il me terrifiait. Bon, alors, c'est quand même moi qui ai pris rendez-vous chez le dentiste, mais c'est aussi moi qui l'oubliais, systématiquement. La troisième fois, j'ai dit laisse tomber, parce que je crois qu'il n'y a rien de pire que de contrarier un dentiste. Bien. Mais on peut voir là des tendances psychiques, des choses qui résistent, mais là c'est la manifestation la plus quotidienne, alors c'est presque anecdotique. Parfois ça peut être très gênant. Bon, il suffit juste de changer d'établissement. Bon. Les rêves. Alors les rêves c'est encore mieux, puisque là, pour le coup, l'inconscient ne se manifeste pas toujours d'une façon extrêmement claire dans le lapsus, quoique si souvent, mais... Parfois, ça peut être juste une fatigue. Bon. Dans les rêves, en revanche, nous dit Freud, là, ça, c'est très manifeste, tout cela est très important. Mais il y a un contenu latent, un contenu manifeste, justement. Le contenu manifeste, c'est ce que vous racontez, j'allais dire, à votre femme au réveil, ou à votre mari. Mais on va arrêter de parler de ma femme. C'est ce que vous racontez aux autres et ce que vous croyez être déjà la signification du rêve. Eh bien non, nous dit Freud, il y a un contenu latent qui est le déplacement. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que le rêve, finalement, pour Freud? C'est l'idée que vous avez des désirs. Quelque chose en vous va les mettre de côté. S'il y a un refoulement, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il vous agresserait. Il serait considéré par votre psychisme comme trop violent et trop destructeur. Ou pas du tout acceptable. Donc, ils sont relayés. Mais qu'est-ce qui se passe avec vos désirs quand ils ne sont pas satisfaits? Ben, ils bouent. Vous désirez quelque chose, tant que vous ne l'avez pas, ça boue. C'est là, en filigrane, ça vous occupe, etc. Pensez à vos jeunes années, parce qu'à ce moment-là, c'est le moment où ça boule plus, en général. Voilà, un amour de jeunesse, vous ne pouviez pas vous concentrer sur autre chose. Il fallait savoir si cette fille, slash ce garçon, s'intéressait à vous. Bon. Et tant que vous analysiez tous ces moindres détails, et tant qu'il n'y avait pas de réponse, eh bien, ça bouillait. Imaginez la même chose multipliée par le nombre de désirs qui vous sont masqués. On pourrait comparer ça à une cocotte minute, si vous voulez. Si vous faites, vous bouchez le trou de la cocotte minute, qu'est-ce qui se passe? Alors on m'a dit, hein, je n'ai jamais essayé, remarque, faudrait essayer. Ça éclate. Bon. Même si c'est extrêmement costaud, une cocotte minute. Vous enlevez le petit machin qui fait pshhh tout le temps, bam, ça explose. On pourrait imaginer que le psychisme, c'est pareil. S'il n'y a pas une soupape de sécurité, d'un moment, ça vous déstructurerait complètement. Déjà, on en a la preuve, empêcher quelqu'un de rêver, au bout d'une semaine, il est complètement fou. Les Américains s'en servent pour torturer, vous savez, quand les gens commencent à rêver, c'est-à-dire à s'agiter un petit peu, ils lancent l'électroencéphalogramme, pouf, ils mettent de la musique hyper violente, paf. Donc c'est pas qu'on les empêche de dormir, c'est qu'on les empêche de rêver. C'est bien pire, c'est plus sournois. Bon, donc, qu'est-ce qui se passe pendant le rêve? Vous accomplissez, mais d'une façon déguisée, une partie de vos désirs. Pourquoi? Parce que, et c'est là que c'est important, si vous les accomplissez directement dans le rêve, ben, il vous saute à la gorge, vous en rendez compte de votre désir. Tiens, j'ai couché avec mon père cette nuit. Tiens, j'ai... Bon, non, là, je dis les souvenirs les pires qu'on pourrait imaginer chez quelqu'un. Tiens, j'ai... Bon, s'il n'y avait pas de déplacement, ça vous agresserait complètement. D'un autre côté, s'ils n'étaient pas satisfaits, ça vous continuerait à bouillir en vous. Donc, que va être le rêve? Eh bien, ça va être simplement une satisfaction déguisée d'un désir refoulé. C'est-à-dire que la nuit, vous allez déplacer un peu la symbolique de votre rêve pour, en utilisant des contenus du jour, généralement, vous avez mangé une tarte aux pommes, vous rêvez une tarte aux pommes, elle signifiera certainement autre chose dans la situation. Vous allez déplacer à partir des restes diurnes, vous allez reformer une symbolique, et derrière se manifestera, mais d'une façon déguisée, quelque chose d'inconscient. Donc voilà en gros ce que nous dit Freud, c'est qu'il y a quelque chose qui s'exprime malgré vous, et là on commence à avoir quelque chose qui est plus de l'ordre du destin, c'est-à-dire quelque chose s'impose à vous et vient hanter vos nuits, que vous le vouliez ou non. Et c'est même la seule façon d'avoir un tout petit peu de possibilité de souffler. Et enfin les névroses évidemment, alors je vous ai dit qu'il y avait trois grands domaines pour la première topique, on avait les actes manqués, les rêves, les névroses. Les névroses, c'est... alors, il y en a trois grands champs normalement, les phobies, les névroses obsessionnelles et les hystéries, qui aujourd'hui ne sont plus très, très à la mode. Mais on peut imaginer que derrière se cachent aussi toutes les manifestations somatiques, enfin psychosomatiques. Alors, évidemment, les purs freudiens vont dire « Mais non, pas du tout, les hystéries, c'est les hystéries. Il y a tout un branche de psychosomatique. » Enfin, les freudiens n'ont plus à être freudiens absolument aujourd'hui, on s'en fiche. En tout cas, qu'est-ce qu'une névrose? Eh bien, c'est quelque chose qui vient du refoulement, justement. C'est à la fois un substitut de satisfaction, un peu comme le rêve, et l'expression d'une censure. Donc, on peut imaginer que, par exemple, une névrose obsessionnelle consiste à déplacer quelque chose qui vous pèse profondément, un objet très préoccupant, vers une manifestation qui l'est moins, et qui permettra, justement, là encore, d'accomplir d'une façon déguisée un désir. Bon. Alors, j'ai un exemple affreux, là aussi, pour vous montrer un peu, là aussi, le côté destinal, destiné. Une femme, dont j'ai entendu parler, avait une sorte de névrose du ménage terrible. Donc, elle l'avait... j'allais dire plusieurs fois par semaine son appartement, ça peut être pas névrotique, pardon, c'est moi qui suis un peu négligent sur le ménage, mais on va dire plusieurs fois par jour son appartement. Elle était extrêmement obsédée par la saleté jusqu'à ce que ça prenne des proportions absolument débordantes et qu'elle en vienne à perdre complètement le contrôle de tout cela et qu'elle en vienne à exiger que ses enfants se déshabillent avant de rentrer chez elle entièrement, et elle leur passait un gant où elle avait mis de la javel dessus. Donc elle les javelisait, enfin, un tout petit peu de javel, mais quand même. Donc on s'est rendu compte, parce qu'il y avait des traces de maltraitance, les enfants commençaient à avoir des plaques rouges, mais pour essayer de défendre leur mère, ils ne disaient rien. Et évidemment, après un travail sur elle-même, on a découvert, elle a découvert, que c'était évidemment en lien avec quelque chose qu'elle a vécu au même âge, où elle s'était sentie salie, puisque quelqu'un avait eu un comportement très, très pervers vis-à-vis d'elle. Elle se sentait sale et elle sentait ses enfants sales. Donc cette façon de déplacer absolument ce traumatisme absolu a été de nettoyer ses enfants. Bon. Alors c'est une façon d'exposer ça peut-être un peu simpliste, mais on voit les déplacements. Ça peut aller du petit déplacement le plus anecdotique, tapoter sur les objets, mettre toujours son réveil sur un chiffre pair ou impair. J'aime bien prendre cet exemple parce qu'à peu près tout le monde le fait. Ou alors sur jamais sur un nombre rond, enfin ce genre de petite façon un petit peu simple de jouer avec le réel, jusqu'au moment extrêmement envahissant. Et là intervient la psychanalyse, quand ça devient trop envahissant, quand les déplacements sont trop envahissants, eh bien, il faut travailler dessus. Et en remontant à l'origine du symptôme, on peut apprendre à apaiser la vie psychique du malade. Voilà en gros ce que nous dit Freud. Mais derrière, on a bien l'idée d'une sorte de déterminisme. Rien ne se fait sans raison. Tout a une explication et une fonction. Les actes les plus anodins ont finalement, malgré tout, une symbolique. Peuvent être révélateurs de quelque chose. Mais le caractère de destinée, toujours envie de rajouter, on est toutes et tous les deux destinés, donc la destinée, c'est affreux. Il faudrait que je le chante une fois pour que ça aille mieux. Je réaliserai mon désir et bon, d'accord. Pas de répit, alors. Donc la destinée, alors, bref, apparaît beaucoup mieux dans la deuxième topique. Pourquoi ? Parce qu'en 1920, Freud va représenter un peu différemment l'appareil psychique. Et cette fois-ci, tout va devenir encore plus compréhensible. Le moi, alors il va y avoir trois instances, là encore, reprenez la cible. Le petit rond du milieu abritera le ça, le rond autour sera le moi, et le rond supérieur sera le surmoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le moi, votre conscience, est pris en sandwich entre deux instances contradictoires et en fait est la résultante de ces deux instances. C'est-à-dire deux forces psychiques opposées. Celle du ça, celle du surmoi. Voilà en gros ce que nous dit Freud. Alors qu'est-ce que le ça ? Bah, le ça, on peut se représenter comme le tout jeune enfant. Un enfant, c'est d'abord un bébé, c'est d'abord un ça. Ça fait ouin, ouin. Moi, ça m'évoque toujours le lapin crétin. Si vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez le lapin crétin. Mais c'est une sorte de petit lapin qui fait bra, bra en permanence, qui saute de partout et qui est absolument incontrôlable. Bon. Alors, l'enfant, au départ, est un ça, un ensemble de désirs, de pulsions qui cherchent la satisfaction. Mais, progressivement, eh ben, il va être confronté à un certain nombre d'interdits et à un certain nombre de frustrations. Par exemple, rien que le fait que, bon, il veut téter le sein de sa mère ou le biberon, et puis la mère dira, ben non, tu viens de manger, donc t'attends un petit peu. Paf, attendre, frustration. Et progressivement, va se créer une autre instance qui va être le surmoi. C'est-à-dire l'ensemble des frustrations qui vont faire obstacle au passage des désirs. Alors, le surmoi, c'est l'intériorisation, nous dit Freud, des exigences et des interdits parentaux et sociaux. Donc en gros, c'est quand on a un des parents qui dit non, 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 paf, on a la réalité qui vient s'opposer au plaisir. Je le fais d'une façon un peu simpliste, mais le principe de réalité, qui est un peu le domaine du ça, vient être limité par une sorte de barrière, qui est l'interdit, réel ou qu'on se représente comme tel. Tout cela va être très important, pourquoi aussi ? Parce que eh bien, le moi sera la résultante de ces deux tendances opposées. Il y a aussi l'idéal du moi. C'est vraiment pour les puristes. L'idéal du moi, qui est parfois identifié au surmoi, c'est ce que je me représente être les exigences que les autres attendent de moi. Et non pas, parce qu'il y a aussi l'idéal du moi et le moi idéal, mais enfin, on pourrait déployer ça pendant des heures, c'est encore autre chose. Mais l'idéal du moi, c'est par exemple ce que j'imagine que mes parents attendent de moi pour être un bon fils. Alors parfois c'est complètement faux, parfois c'est vrai, mais en tout cas c'est ce que je vais m'interdire au niveau de mes désirs, mais ça va être un moment essentiel. Pourquoi est-ce un moment essentiel ? Parce que votre enfant, vous ne lui mettez aucune barrière, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il n'aura aucun contrôle sur lui-même, sur ses désirs. Donc le surmoi, ce n'est pas l'instance négative, genre « Oh, quel dommage qu'on ait un surmoi, non, ce serait tellement plus agréable. » Pas du tout. Pas plus qu'un surmoi sans un ça ne se permettrait de faire quoi que ce soit. Il faut les deux, il faut un équilibre des deux. Pourquoi je vous parle de ça, ou de surmoi ? Tout simplement parce que en parlant très rapidement, parce que ça avance vraiment, du complexe d'Œdipe, on voit à quel point il y a une sorte de destinée. Que va nous dire Freud à propos de ce fameux complexe d'Œdipe ? Alors, on aurait pu prendre les trois stades, on aurait pu prendre plein d'autres choses, il y a des moments absolument formateurs, mais le complexe d'Œdipe est très intéressant, parce qu'il est vraiment, pour Freud, le moment où la formation du surmoi se termine et prend toute son ampleur, ou alors en tout cas, se teste. C'est le moment où l'enfant va se trouver une place au sein de la famille. Alors, il avait attribué un rôle symbolique à ses parents, et en général, ça va consister, alors prenons le cas du petit garçon, à qu'est-ce qui va se passer pour le petit garçon ? Environ 5-6 ans. Un peu plus, un peu moins, c'est normal. Mais bon, 6 ans, c'est peut-être la période de latence, peut-être un peu avant quand même. 4-5 ans, ouais. Bon. Qu'est-ce qui va se passer chez le petit garçon? Eh bien, d'un seul coup, il va voir son père comme un modèle. Évidemment, il s'identifie parce qu'il voit qu'il est un garçon lui aussi. Mais ce modèle a réussi à conquérir sa mère. Donc, il va essayer de se rendre séduisant comme papa aux yeux de la maman. Ça veut dire qu'on va aussi essayer d'évincer papa. On va le remplacer. On va essayer de le remplacer symboliquement aux yeux de la mère. Alors, c'est vraiment toujours très symbolique. Ça, mais c'est quand même une mort symbolique du père. C'est-à-dire qu'on va essayer véritablement, on va, par exemple, s'incruster entre les deux parents qui regardaient Drucker tranquillement. On va se mettre entre les deux pour bien mettre à l'écart papa et bien être à côté de maman. On ne supporte pas de les voir ensemble. Ça peut être un moment tout simple où on va offrir des fleurs à maman et on va être hyper désagréable avec papa. Ça peut être plein de manifestations plus ou moins anecdotiques. On représente la mère grande comme ça, le papa tout petit. Bon. Alors, sauf dans mon cas où l'instit avait convoqué mes parents en disant c'est bizarre quand même, d'habitude on représente le père plus grand que la mère, mais il vous représente toujours plus grand. Puis en fait, elle a regardé, puis elle a vu que en fait, ma mère était plus grande que mon père. Donc des fois, ça ne cache, les dessins d'enfants ne sont pas à interpréter directement. C'est rigolo. Bon, mais en tout cas, voilà, l'enfant va se trouver une place, mais qu'est-ce qui va se passer? Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que quand ça se passe mal, eh ben, ça peut être un peu désastreux pour l'équilibre psychique. Imaginons un cas, par exemple, d'un moment qui se passe mal. Le petit garçon est en train de séduire sa mère, essayer en tout cas, puis sa mère lui dit « Oh, mais c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que tu fais? Mais n'importe quoi, viens voir chéri, tiens, engueule-le, tu te rends compte ce qu'il a fait ?» Bon. Là, évidemment, frustration, incompréhension, l'enfant ne sait même pas ce qu'il fait, c'est terrible. Ou alors, à l'inverse, la mère qui joue le jeu. Ah, mais tu sais, ça c'est souvent quand les parents se séparent. Ah oui, mais tu sais, tu es un peu tout ce que n'est pas ton père. Toi au moins, tu m'écoutes, etc. Bon, là, c'est très destructeur parce qu'il y a l'impression que ça marche. Ou alors quand il ne sent pas l'amour de ses parents. Enfin, l'amour mutuel de ses parents. Ou alors, bon, il y a plein de façons, après ça ne se passe pas toujours mal dans ces cas-là, mais il y a plein de façons pour l'enfant, lorsqu'il ne comprend pas, lorsqu'on ne lui explique pas, d'avoir du mal à se reconnaître dans les rôles qu'il attribue aux uns et aux autres. Alors, du coup, on peut avoir, en tout cas, c'est ça que j'essayais de montrer, le complexe d'Œdipe, nous dit Freud, va avoir un écho sur toute la vie psychique, même de vous adultes, c'est-à-dire que nous sommes tous les héritiers du complexe d'Œdipe, et en quelque sorte, même dans le choix de votre conjoint, même dans votre façon de voir le couple, tout cela va faire écho à ce que vous avez vous-même vécu ou interprété au moment de votre complexe. Rien n'est de rien. Pas dire que ça s'est bien ou mal passé, ça veut dire que ce n'est pas du tout sans lien. Et qu'en général, par exemple, on cherche toujours une femme qui ressemble à sa mère ou qui est exactement le contraire. Mais c'est pareil. On cherche un homme qui est exactement comme son père ou complètement le contraire. Mais tout cela n'est pas indifférent. Et ce que va essayer en fait de montrer Freud, c'est qu'on peut appliquer cela à toutes les grandes phases de constitution psychique. Tout ce qu'on va vivre dans la petite enfance va trouver un écho à l'âge adulte. Donc est-ce que c'est un destin? Ça y ressemble. Tout ce qu'on va vivre dans la petite enfance et dans la formation de son psychisme, l'équilibre du ça, du surmoi, de l'idéal du moi, de ce que vous voulez, va trouver un écho et dicter une partie de nos actions. Pour comprendre vraiment ce qu'on est, bah, il faudrait revenir un petit peu à tout cela. Bien. Alors en gros, et puis en plus ça se complexifie, on pourrait même dire que l'enfant porte aussi parfois l'inconscient de ses parents. Hein. Il y a aussi les conflits intrapsychiques de ses parents qui pèsent sur l'enfant. On pourrait multiplier les exemples, mais là, on n'a pas le temps. Tout cela pour dire que Freud, là, nous apparaît pour l'instant comme une sorte de modernisation de l'idée du destin grec. Dans l'inconscient, ce serait une sorte de lecture moderne du destin. On assiste impuissant à des conflits qui décident de nos actions. Or, ces conflits sont comparables aux dieux grecs. Ils ne sont ni bons ni mauvais en soi, mais ils ôtent en grande partie la liberté du sujet. Hein, les Grecs alors, se lamentaient dans toutes les tragédies, les dieux décident à notre place. Et ben là, ce n'est plus les dieux, c'est les conflits intrapsychiques. Mais au fond, est-ce que ça ne revient pas au même? On passe enfin à la deuxième partie qui sera plus courte. Eh bien oui, ça revient au même, c'est en tout cas ce que nous dit Alain et Sartre, ce que nous disent Alain et Sartre, mais il faut le refuser. Pourquoi faut-il le refuser? Eh bien, tout simplement parce que imaginer que toute la vie psychique de l'individu vient de sa petite enfance, qu'il y a une sorte de, comme ça, d'écho, de reflet direct de la formation du psychisme, eh bien, c'est ôter la responsabilité à l'homme et c'est empêcher un homme d'être à l'origine de ses actions. Alors, si on remonte à qu'est-ce que c'est justement qu'une action volontaire, on peut trouver une réponse chez Aristote, c'est toujours bien de citer Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, qui dit qu'une action ne peut m'être imputée que si je l'ai voulu sciemment dans son déroulement et ses conséquences. Alors on va le comprendre en prenant deux contre-exemples. Quand est-ce que je n'ai pas voulu une action dans son déroulement et ses conséquences ? Ben, je suis somnambule, j'essaie d'étrangler ma femme, il y a des cas de somnambulisme extrêmement agressif. C'est une crise, ça ne dépend pas de moi, je croyais rêver et je ne me souviens même pas au réveil. Bon, c'est très dur à justifier devant un tribunal. En fait, vous croyez que j'ai essayé d'étrangler ma femme, mais pas du tout, c'est une crise de somnambulisme. C'est difficile à défendre, mais c'est déjà arrivé. Enfin, pas à moi, évidemment. Mais voilà, un somnambule, je prends cet exemple parce que Aristote prend cet exemple. Au moment de sa crise, ne peut pas être tenu responsable de ses méfaits. On pourrait imaginer que l'ivrogne, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de la même façon. Alors, il est responsable, évidemment, complètement. Vous avez trop bu. Vous trouvez que c'est une très bonne idée de prendre votre voiture. Alors, évidemment, vous ne l'auriez jamais prise sans avoir bu. Mais ayant bu, vous dites si, finalement, j'en suis capable. Et puis, sur la route, vous renversez quelqu'un. Ce n'est pas quand même la même chose que si vous avez pris votre voiture pour renverser quelqu'un. A priori. Alors, c'est quand même très blâmable, mais on ne va pas considérer que vous êtes tenu responsable de la même façon. Si vous avez pris votre voiture pour écraser quelqu'un, ou si vous l'avez prise pensant que ça irait, mais en fait, vous n'étiez pas suffisamment responsable de vos actes, c'est pas la même chose. Et ce que reproche Alain, c'est que, chez Freud, le sujet n'est pas responsable de ce qu'il éprouve, ni même, très souvent, de ce qu'il fait. Et c'est là que c'est problématique. Par exemple, la compulsion à la violence de certaines névroses n'est pas entièrement de la responsabilité du sujet, puisque ça le déborde, puisque ça parle en lui sans lui. Et puis parce que la plupart du temps, un sujet peut agir sans connaître les causes réelles de son action. Et donc pour Alain et Sartre, on déresponsabilise le sujet, on va créer une sorte de mythe de quelque chose qui est en moi, une sorte de vilain démon qui va s'agiter en moi. Et au fond, qu'est-ce qu'on fait ? On déresponsabilise et on empêche de comprendre, de restituer au sujet ses actes. Alors, je vous lis juste un tout petit extrait d'un texte que je vous avais choisi, mais qui était trop long, et qui compare justement, c'est pour ça que c'était intéressant, justement au dieu grec. Sûrement un dieu me conduit. Alors, ça allait très bien pour justifier le sujet, mais c'est trop long. Alors, lisons juste un tout petit extrait. En fait, l'homme s'habitue à avoir un corps et des instincts. Le psychiatre contrarie cette heureuse disposition, il invente un monstre. Il le révèle à celui qui en est habité. Le freudisme, si fameux, est un art d'inventer en chaque homme un animal redoutable, d'après des signes tout à fait ordinaires. Les rêves sont de tels signes, les hommes ont toujours interprété leurs rêves, d'où un symbolisme facile. Freud se plaisait à montrer que ce symbolisme facile nous trompe et que nos symboles sont tout ce qu'il y a d'indirect. Les choses du sexe échappent évidemment à la volonté et à la prévision. Ce sont des crimes de soi auxquels on assiste. On devine par là que ce genre d'instinct offrait une riche interprétation. L'homme est obscur à lui-même, cela est à savoir. Seulement, il faut éviter ici plusieurs erreurs que fonde le terme d'inconscient. La plus grave de ces erreurs est de croire que l'inconscient est un autre moi. Un moi qui a ses préjugés, ses passions et ses ruses. Une sorte de mauvais ange, un diabolique conseiller. Contre quoi il faut comprendre qu'il n'y a point de pensée en nous, sinon par l'unique « je ». Cette remarque est d'ordre moral. Bon, alors lui, c'est un peu dur. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est de dire qu'en fait, la conscience est entièrement résorbable dans le « je », et qu'en fait, ce qu'on appelle l'inconscient, c'est en fait les instincts. Alors, on va voir que ce n'est pas du tout ça. Mais Alain dit, Freud, on peut tout à fait remplacer sa théorie en disant « il y a des instincts en l'homme, dans ces cas-là, c'est le corps qui s'exprime, donc on en revient à la première conception, et ce n'est pas la peine d'inventer une sorte de monstre mythologique en moi. » On restitue au sujet sa possibilité d'agir et on en arrête avec cette espèce de grande entreprise de déresponsabilisation que serait l'inconscient. Donc en gros, parfois mon corps s'exprime. Par exemple, je vois ma... j'arrête avec ma femme. Je vois la femme de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas beaucoup mieux. Quelqu'un voit sa femme le tromper. Ce quelqu'un a tout de suite envie de s'en prendre. Celui qui trompe sa femme ou à sa femme elle-même, peu importe. D'un coup, c'est le corps qui parle. Il boue. Paf, il arrache un extincteur du mur et il s'apprête le lancer sur sa femme ou l'amant de sa femme. Mais, nous dit Alain, il peut toujours s'arrêter. Ça, c'est le corps, ça. C'est le corps qui s'exprime quand d'un coup, il y a une passion. Quand vous avez une passion, vous êtes passif. Mais c'est parce que c'est le corps qui parle à votre place. Et ce que dit Alain, c'est on a toujours la possibilité pour nous de se maîtriser. Sinon, on n'est pas un homme. Tout cela est très théorique. Et surtout, tout cela est très moral. C'est ça qui peut gêner un peu avec la vision d'Alain. C'est-à-dire que là, on a un grand cours de morale. Il ne faut pas que l'inconscient existe, parce que sinon, vous enlevez à l'homme toute sa dignité. L'homme, justement, se distingue de l'animal par sa possibilité de choisir. L'animal est guidé par ses instincts, il n'a pas le choix, boum. L'homme, lui, est capable de s'opposer à ses instincts, et donc il est parfaitement rationnel. On lui restitue la conscience de ses actes, on le re-responsabilise, et on restitue aussi par là son humanité. Plus vous enlevez de l'inconscient, plus vous restituez l'humanité, parce que vous restituez la liberté, et c'est la même chose. Sinon, vous en faites un pantin, exactement comme un animal, gouverné par ses instincts. Et du coup, on remplace juste les instincts par l'inconscient. Ça ne change pas grand-chose, nous dit Alain. Bon, là, on n'a pas vraiment une explication, on a plutôt une critique. Sartre va aller beaucoup plus loin, parce que lui, il va proposer autre chose, et même un problème au sein de la théorie de Freud. Alors, super problème. En général, quand je lis ce petit morceau de texte à mes élèves, alors quand ils le comprennent, ils sont complètement convaincus que finalement, tous nos développements sur Freud sont faux. On va voir que c'est loin d'être aussi simple que cela, mais on peut dire que l'argument de Sartre ne manque pas d'intérêt. Donc, Sartre, lui, il va dire que l'essence de la conscience, c'est la liberté. Donc, de ce côté-là, il est d'accord avec Alain. La conscience, c'est cette possibilité d'agir librement. Mais il va trouver un grand problème dans l'explication freudienne. Je vous lis un passage. Si en effet nous repoussons le langage et la mythologie chosiste de la psychanalyse, nous nous apercevons que la censure, pour appliquer son activité avec discernement, doit connaître ce qu'elle refoule. Si nous renonçons en effet à toutes les métaphores représentant le refoulement comme un choc de force aveugle, force est bien d'admettre que la censure doit choisir, et pour choisir, se représenter. D'où viendrait autrement qu'elle laisse passer les impulsions sexuelles licites, qu'elle tolère les besoins, que les besoins s'expriment dans la claire conscience? Et comment expliquer qu'elle peut relâcher sa surveillance? Alors, tous ces termes sont mis en italique parce qu'ils sont de Freud. Hein. Comment expliquer qu'elle peut relâcher sa surveillance, qu'elle peut même être trompée par les déguisements de l'instinct? Mais il ne suffit pas qu'elle discerne les tendances maudites. Il faut encore qu'elle les saisisse comme à refouler, ce qui implique chez elle, à tout le moins, une représentation de sa propre activité. En un mot, comment la censure discernerait-elle les impulsions refoulables sans avoir conscience de les discerner? Peut-on concevoir un savoir qui serait ignorance de soi? Savoir, c'est savoir qu'on sait, disait Alain. Disons plutôt, tout savoir est conscience de savoir. Ainsi, les résistances du malade impliquent au niveau de la censure une représentation du refoulé en tant que tel, une compréhension du but vers quoi tendent les questions du psychanalyste, et un acte de liaison synthétique par lequel elle compare la vérité du complexe refoulé à l'hypothèse psychanalytique qui le vise. Et ces différentes opérations, à leur tour, impliquent que la censure est conscience de soi. Mais de quel type peut être la conscience de soi de la censure? Il faut qu'elle soit conscience d'être conscience de la tendance à refouler, mais précisément pour n'en être pas conscience. Qu'est-ce à dire sinon que la censure doit être de mauvaise foi? La psychanalyse ne nous a rien fait gagner, puisque pour supprimer la mauvaise foi, elle a établi entre l'inconscient et la conscience une conscience autonome et de mauvaise foi. Je trouve ça génial. Bon. Pourquoi c'est génial? Parce qu'il dit, si vous n'avez pas compris, parce qu'il y a plein de fois, c'est un peu difficile en lisant seulement comme ça. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe au niveau de la censure? Qu'est-ce qui se passe au niveau du surmoi? Eh bien, il y a quand même une sélection entre ce qui peut mériter de passer dans la claire conscience et ce qui sera refoulé. Mais comment peut-on sélectionner quand ce n'est pas représentatif? C'est quand même un problème. Faut bien, alors nous dit Sartre, c'est comme s'il y avait une sorte de conscience avant la conscience qui va déjà dire, alors ça peut passer parce que ça va pas traumatiser mon psychisme, ça non, parce que là en revanche ça va être un peu traumatique. Sauf que les pulsions, c'est sans objet, c'est pas représentable, ça ne devient représentable qu'au moment où ça vient dans la conscience. Donc on a une sorte de conscience qui sait à l'avance qui va être un choc ou pas. Problème théorique. On a rajouté une conscience avant la conscience. Tout cela est très joli, mais on se dirait, d'accord, mais il faudrait quand même remplacer par quelque chose. C'est bien beau de critiquer. Mais qu'est-ce que tu dis, Sartre, à la place? Eh bien, Sartre va dire, qu'en fait, on peut expliquer différemment les processus. Pour Sartre, il n'y a pas plusieurs égos en moi, mais il y a en revanche un être multiforme et toujours en transformation. C'est-à-dire que chacun peut nier en partie ce qu'il est en s'appuyant sur une manifestation contraire. Alors Sartre prend plusieurs exemples. Il prend l'exemple du garçon de café. On pourrait prendre l'exemple du conférencier. J'aime bien mettre moi-même en péril. Que fait le garçon de café? Que fait le conférencier? Ben, il joue à être garçon de café ou conférencier. Là, je joue. En fait, je suis vraiment conférencier, rassurez-vous. Mais en même temps, il y a toujours une part de moi qui en rajoute. Heureusement que je ne parle pas comme ça dans la vie. Si je parlais comme ça à ma femme tout le temps, elle deviendrait folle. Je parle un peu comme ça. Mais chérie, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Bon, voilà, non, pas du tout. Il faut quand même être mesuré, etc. Chérie, peux-tu me passer le sel? Bon, je ne peux pas mettre autant de vie dans ma vie en général. Bon, donc il y a un rôle. Le garçon de café, il joue un rôle. D'ailleurs, quand il ne joue pas, ça vous traumatise. Je connais un garçon de café qui ne joue pas son rôle. Il est garçon de café sur la place Carnot. Bref, un garçon de café qui ne joue pas son rôle et qui est extrêmement désagréable. Normalement, un garçon de café est toujours agréable. Bonjour, et pour monsieur, ce sera, etc. Pas du tout. Certains, un que je connais, par exemple, à un moment, on s'était déplacé avec ma femme et mes enfants, et on ne lui avait pas dit, parce qu'on prenait le soleil. Il a refusé de nous servir. Il a dit, oh, si vous vous déplacez, c'est bon, je ne suis pas censé savoir qui est où. Bon, là, ce n'était pas un vrai garçon de café. Donc, on est toujours dans un rôle. Quoi qu'on fasse, il y a toujours une partie de jeu. Et c'est ça, la liberté, nous dit Sartre. C'est-à-dire qu'on joue toujours. C'est ce décalage, ce recul qui nous différencie de l'animal. Si on n'avait pas de recul, on serait tellement garçon de café, on serait tellement prof de philo qu'on n'en décollerait jamais. On serait tellement conférencier qu'on serait toujours en conférence. Le type ridicule, c'est le type qui ne sait pas qu'il joue. Parce qu'il n'est pas libre. Il est complètement obsédé par son rôle. Normalement, si vous êtes libre, c'est que vous avez ce décalage. Il y a toujours une partie de vous qui fait « oh, oh, oh ». Par exemple, votre enfant fait n'importe quoi. Moi, le mien, actuellement, joue à mettre les papiers de rouleau toilette, rouleau de papier toilette dans les toilettes en entier. Il a bien vu que ça devait finir à peu près là-dedans. Donc, il les prend, paf, il les met. Et quand il fait ça, moi, au début, j'avais envie de rire. Je trouve ça drôle. Quoi. Bon, il bouchait les toilettes, d'accord, mais bon. Mais en fait, je le grondais. Rôle parental. Je fais semblant de trouver ça grave, alors qu'en fait, au fond de moi, j'ai envie de pouffer. Bon. Donc on est toujours dans un rôle. Et ce que nous dit Sartre, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin d'imaginer le clivage du psychisme pour comprendre le mensonge à soi-même, y compris pathologique. En fait, on a plusieurs tendances et on en reconnaît plus certaines que d'autres. Alors il prend un exemple, il faut que je me dépêche, je veux vraiment absolument vous parler de la troisième partie. Il prend un exemple, la jeune femme à son rendez-vous, galant. Elle est au cinéma, enfin pas dans l'exemple je crois, mais bon. Et à un moment, le galant, elle le sait, lui prend la main. Alors, évidemment, c'est tout ce qu'elle espérait, puisqu'elle vient au rendez-vous galant. Elle le sait qu'il va se passer un truc comme ça. Mais elle refuse. Elle enlève sa main et elle se met à lui parler de sa journée. Catastrophe. Alors, pourquoi? Alors, on pourrait imaginer d'un point de vue un peu freudien une hypothèse du genre, eh ben, il y a quelque chose qui a fait obstacle. Non, cette jeune femme, en fait, voulait, mais n'a pas pu. Quelque chose était trop... Bon, non, pas du tout, dit Sartre, pas du tout. Elle avait envie et pas envie. Elle avait envie parce que d'un côté, elle voulait être désirable aux yeux du garçon et en même temps, elle voulait elle-même se reconnaître comme une espèce de conscience éthérée qui ne pense pas aux choses sexuelles qui allaient forcément arriver. Et en plus, je rajoute un peu malicieusement, elle avait conscience que le meilleur moment d'une relation, c'est souvent au tout début, quand votre cœur bat à chaque fois que vous voyez votre amoureuse ou votre amoureux, et que vous interprétez tous ces faits et gestes, et que c'est tellement délicieux. Donc elle retarde le moment où, parce qu'après, une fois que vous êtes installé en couple, même si je suis absolument fou de ma femme, eh bien, il ne se passe plus cette espèce d'émotion du tout début. Parfois, on a envie de le revivre. Pas moi, moi ça va très bien. Mais vous. Bon, donc bref, l'idée c'est que elle a conscience d'avoir envie et en même temps de ne pas avoir envie. Et une des tendances va sur l'autre. Il n'y a pas besoin d'un inconscient derrière. C'est-à-dire qu'elle se ment elle-même pour une partie. Voilà. Alors tout cela est très intéressant. Mais plusieurs choses. Premièrement, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Pour Alain comme pour Sartre, qu'est-ce qu'on nie? Ben, la souffrance psychique du malade. En gros, en se bougeant un peu les fesses, on peut quand même arriver à se dominer, quoi. Ben, aller dire ça à une personne schizophrène, aller dire ça... voilà. Ou même sans aller dans les psychoses, ou vous pouvez aussi même dans les névroses aller dire ça à quelqu'un qui est profondément affecté par ses propres névroses. On nie la souffrance psychique du malade et on dit en gros fais un effort, là, en fait tu te fais bien plaisir avec tes petites névroses. Voilà en gros ce qu'on dit. Pour responsabiliser l'homme et lui restituer sa liberté, ben, on nie sa souffrance et son incapacité à dépasser une situation. Première chose. Deuxième chose, ça n'explique pas grand-chose à propos justement des névroses ou des psychoses. Je ne pense pas qu'on puisse simplement dire que le psychotique joue à être malade parce que c'est une façon aussi pour lui, ça l'arrange bien, ça lui permet de mettre à l'écart la réalité nous pèse tous. Imaginez dire une chose pareille, c'est absolument monstrueux. Donc pour essayer de retrouver le côté, pour éviter le côté un peu monstrueux de la psychanalyse en restituant complètement la liberté de l'homme et son humanité, ben on plonge dans l'autre revers, c'est-à-dire on en vient à avoir une attitude inhumaine vis-à-vis du malade qui souffre et on nie la souffrance. Voilà en gros le problème que tout cela pose. Alors, la résolution arrive maintenant dans la troisième partie. Je vais essayer de vous montrer que la notion d'inconscient n'implique ni le déterminisme strict qu'on a vu dans la première partie, ni une nécessité de refuser cette hypothèse et de s'interdire de comprendre tous les apports freudiens et aussi la souffrance psychique des malades. Donc, on va essayer de défendre l'idée, et j'en suis absolument convaincu, que l'inconscient n'implique pas du tout le destin et que ça peut même être au contraire la marque de la liberté de l'homme. Alors, pourquoi la liberté ? Déjà parce que, justement, j'ai envie de vous dire tout de suite qu'un animal n'a pas d'inconscient. Parce qu'il n'est justement pas suffisamment psychiquement abouti, en quelque sorte, et il est complètement gouverné par ses instincts. Parce qu'il ne donne pas sens aux objets qui l'entourent. Alors, je donne un exemple récurrent, que j'ai déjà même donné ici, pour vous dire comme je suis passionné par les castors, mais le castor. Donc des scientifiques avaient fait une expérience, très très rapide, l'idée était très simple, mais pour moi ça veut tout dire. On avait vu à quel point les maisons des castors, on va dire une hutte, sont extrêmement complexes, il y a même une petite entrée par le bas, pour pas que les prédateurs puissent venir les déloger, il y a une division du travail, certains castors vont couper des branches des arbres, d'autres vont les construire, bon, tout cela est très complexe. Et des scientifiques joueurs vont décider de tester pour voir si le castor a conscience de ce qu'il fait. Donc ils mettent des branchages, des choses comme ça, dans une pièce, et un haut-parleur qui diffuse un bruit d'eau. Et bien face à ce stimulus, stimulus, les castors, on rentre du boulot, vont tout de suite prendre les branchages, et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces cons de castors ? Construire une hutte autour du haut-parleur. Stimulus, voilà, action-réaction. Ça ne sert absolument à rien, mais c'est comme ça. Parce qu'ils sont tellement programmés qu'il n'y a pas de sens à ce qu'ils font. Même si l'animal peut être extrêmement complexe dans sa façon d'aborder une chose, bah il ne sait même pas ce qu'il fait. Aucun recul. L'inconscient, au contraire, donc il n'a pas d'inconscient. Donc le destin, c'est l'instinct, c'est pas l'inconscient. Le destin, c'est l'instinct, c'est pas l'inconscient. Et la pulsion, au contraire, en un sens, c'est le contraire de l'instinct. Alors même si au départ, Freud mêlait un peu les deux. Pourquoi ? Parce que la pulsion est relativement indéterminée aussi bien quant à son but que quant à son objet. C'est-à-dire aussi bien dans sa satisfaction que dans les moyens par lesquels elle obtiendra cette satisfaction. Alors que l'instinct, lui, est une programmation, une préprogrammation naturelle. Vous pouvez savoir depuis le premier moment comment va à peu près évoluer votre chien. S'il est bien dressé, s'il est mal dressé, etc. L'homme, pas du tout. Mais vous allez me dire, est-ce vraiment une preuve de liberté ? Hein, le fait qu'il me faille satisfaire mes pulsions, même si je peux me les satisfaire différemment, ne montre pas encore que je suis libre. Et c'était qu'un premier point. Eh bien, le deuxième point qui va déjà faire avancer les choses, c'est de remarquer que dans la perspective freudienne, l'homme peut aller librement voir l'analyste. Hein, et ce travail lui permet de se libérer de ses conflits intrapsychiques. Alors, ce ne sont pas les pulsions qui vont le déterminer à faire un travail sur lui-même. Donc c'est toujours la même idée philosophique, si vous voulez, c'est qu'en connaissant les déterminismes, eh ben, je m'en libère. C'est-à-dire que pour la plupart des philosophes, on n'est pas libre dans l'abstrait, comme ça, pure liberté de choisir entre la gauche et la droite, ça ne sert à rien. On est toujours libre par la connaissance de ce qui nous détermine. Et ça, le chien, il ne le fait pas. Bon, déjà, le chien, il n'a pas d'inconscient, parce qu'en général, il ne se pose pas la question « Que fais-je de ma vie de chien ? N'aurais-je pas fait un meilleur chat ?» etc. Vous pouvez. Bon, mais deuxièmement, le chien, quand bien même il se poserait la question, allez, admettons, votre chien aurait fait un bien meilleur chat. D'accord. Mais va-t-il voir un psychanalyste ? Non. Et ne me parlez pas de ces psychanalystes pour chiens. Je sais que ça existe aux États-Unis, évidemment. Ne m'en parlez pas, je vais juste m'énerver. Bien. Bon, donc, évidemment, en revanche, l'homme peut se libérer de son déterminisme. Surmonter l'obstacle, peut. C'est-à-dire que, oui, il y a bien quelque chose de l'ordre de l'obstacle et du déterminisme, mais le fait de le connaître permet justement de mettre à distance. Ça, c'est très important. Mais alors, surtout, surtout, ça c'est l'argument clé, pour ça qu'il intervient à la fin, il faut laisser place au problème de cette donation de sens. On va voir un concept de Paul Ricoeur que j'aime beaucoup, enfin ce concept, quoique Paul Ricoeur aussi, le concept d'identité narrative qui, à mon avis, éclaire beaucoup de choses. On va reprocher souvent quelque chose aux psychanalystes. Et à mon avis, c'est pour de mauvaises raisons. On reproche parfois aux psychanalystes de, par ces questions, par le jeu un peu insidieux des questions, d'orienter les découvertes du patient et de lui reconstruire une vie psychologique qui n'est pas la sienne. Par exemple, si vous dites blablabla et vous dites le mot maman, le fameux cliché, parlez-moi de votre mère, bah paf, d'un coup vous faites un lien, vous n'auriez pas forcément fait spontanément, mais en vous mettant le doigt dessus, mais vous croyez vraiment que, en disant blablabla, bon, bah, quand on vous dit, mais vous croyez vraiment que, vous dites, bah non, je suis pas con, non, je crois pas ça. Bon, bref, le psychanalyste viendrait complètement parasiter tout cela en vous reconstruisant un passé qui ne serait pas les vôtres, en mettant des liens là où il n'y en avait pas. J'ai envie de répondre avec Ricoeur que oui, mais en fait, ça n'a aucune importance. Parce qu'il n'y avait pas de lien absolu, si vous voulez. Il n'y a pas de point de vue définitif sur soi-même. Ce qui importe, c'est le fait de donner du sens, de donner un sens nouveau à son histoire en construisant des liens. Et non pas de retrouver un lien originel qui aurait été la vérité absolue de ce qui s'est passé à tel moment de votre vie psychique. Alors, je m'explique. Ce qui importe pour Ricoeur, c'est cette donation de sens qui permet la construction de soi. C'est-à-dire de passer de morceaux fragmentés de sa vie à un texte complet, à une histoire qui est faite de continuité. Pour Paul Ricoeur, il part de cette idée, en fait, on est ce qu'on est capable de raconter sur soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est ? Eh bien, cette histoire qu'on a intégrée et qu'on est capable de dire. L'idée, c'est qu'à partir de points de vue un peu disparates, et c'est ça qui fait souffrir, et qui n'ont pas été recomposés, eh bien, le fait de donner du sens, de redonner un tissu narratif, va permettre justement de débloquer une situation. Alors que le psychanalyste ait un peu orienté votre reconstruction n'est pas finalement l'important. D'ailleurs, des collègues à moi qui sont psychologues, je m'abrite derrière l'argument d'autorité, me disaient eux-mêmes que finalement, peu importe la voie analytique, si ça convient au malade, ce qui compte c'est la relation, de confiance notamment, et à partir de là, que vous voyez un lacanien ou un freudien, ça ne change pas grand chose, si ce n'est qu'avec le freudien ça durera un peu plus longtemps, puisque le lacanien s'arrête au premier élément significatif. Donc comme disait, bon bref, on s'en fiche, ne dites pas, oh j'en ai plein le cul, parce que là, pof, ah ben on va s'arrêter là. Bon. Ne dites pas, de toute façon, voilà, bref. Les lacaniens, c'est juste que ça coûte très cher pour moins longtemps. Mais ça revient au même. L'idée, c'est que... Et puis, c'est incompréhensible. Mais ça revient au même, pardon, je plaisante. Mais si, c'est à peu près. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on a ? On a l'idée que le patient se reconstruit à travers son histoire. Et c'est ça qui compte. Alors, j'ai envie de vous lire, et ça sera là-dessus que je terminerai, parce que j'ai un peu débordé, juste deux petits extraits qui évoque ce point, qui serait à débattre et à compléter. Alors, deux exemples méritent ici d'être mis en parallèle, mais nous, on va en voir qu'un. Alors, d'un côté, l'expérience psychanalytique met en relief le rôle de la composante narrative dans ce qu'il est convenu d'appeler « histoire des cas ». C'est dans le travail de l'analysant que Freud appelle d'ailleurs « perlaboration » que ce rôle se laisse discerner. Bon, j'aurais pas dû le commencer ici. La psychanalyse constitue à cet égard un laboratoire particulièrement instructif pour une enquête proprement philosophique sur la notion d'identité narrative. On y voit en effet comment l'histoire d'une vie se constitue par une suite de rectifications appliquées à des récits préalables, de la même façon que l'histoire d'un peuple, d'une collectivité, d'une institution procède de la suite des corrections de chaque nouvel historien. Ouais, non, c'est pas là, je l'ai mal découpé mon texte, c'était pas là. Bref, pardon, on va pas terminer sur un échec. D'abord, l'identité narrative n'est pas une identité stable et sans faille, c'est là. De même qu'il est possible de composer plusieurs intrigues au sujet des mêmes incidents, lesquels du même coup ne méritent plus d'être appelés les mêmes événements, de même, il est toujours possible de tramer sur sa propre vie des intrigues différentes, voire opposées. À cet égard, on pourrait dire que, dans l'échange des rôles entre l'histoire et la fiction, la composante historique du récit sur soi-même tire celui-ci du côté d'une chronique soumise aux mêmes vérifications documentaires. Bon, et là, ça devient encore compliqué. Bon, bref. Je préfère finir par moi-même, parce que c'est un peu compliqué. Je me rends compte en lisant, sans que vous ayez le texte sous les yeux. L'idée, c'est, encore une fois, la reconstruction à partir de moments fragmentés et le fait de donner un sens à son histoire. Voilà, en gros, ce qu'on pourrait dire. une donation de sens dont est incapable évidemment l'animal. On a vu le pauvre castor qui n'est même pas capable de donner du sens à sa propre maison, encore moins capable de donner du sens à sa vie. Bref, tout cela montre quoi ? Eh bien, la psychanalyse montre que justement, on est face à un être libre qui est capable de se construire et qui peut être justement complètement déterminé par ce qui lui arrive, mais qui peut aussi surmonter ses déterminismes en apprenant à les connaître.